Au début des années 2000, il se vendait environ 100 000 décapotables par an rien qu'au Royaume-Uni.
Ouais, c'était énorme.
Et 20 ans plus tard, bah, ce chiffre, il s'est complètement effondré. On est à peine à 11 000.
C'est une chute spectaculaire.
Et le constat est exactement le même aux États-Unis, hein. Une chute vertigineuse. On passe de 300 000 à environ 70 000 unités aujourd'hui.
Le toit de nos voitures s'est refermé, en fait.
C'est ça. Et derrière cette simple disparition esthétique, se cache en réalité une mutation totale de notre psychologie. Mais aussi, et on va le voir, une guerre industrielle et technologique mondiale qui est vraiment impitoyable.
Je suis ravie d'être là pour en parler parce que c'est un point de départ fascinant. Pendant des décennies, la voiture, ce n'était pas seulement un moyen d'aller d'un point A à un point B.
C'était presque une philosophie.
Exactement, c'était une ouverture sur l'extérieur, une véritable invitation à l'évasion. Mais aujourd'hui, l'automobile s'est métamorphosée. Nous sommes passés d'une volonté d'exposition au monde à une quête vraiment obsessionnelle de protection contre ce même monde.
Et c'est précisément l'objet de notre plongée au cœur de nos sources aujourd'hui. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau décryptage.
Bonjour.
Notre point d'ancrage pour cette analyse, c'est le numéro de juillet 2026 du magazine Image Automobile.
Une source très riche.
Très riche, oui. L'objectif de notre mission du jour, pour ceux qui nous écoutent, c'est de comprendre cette disparition de la voiture de nos rêves des années 90, d'analyser ce que les ventes actuelles révèlent de notre besoin compulsif de sécurité.
C'est le mot « compulsif ».
Et de voir comment, concrètement, un pays comme le Maroc est passé du statut de simple acheteur à celui de véritable puissance de production mondiale.
C'est un programme dense, hein? Ça nous oblige à lier l'ingénierie pure, la psychologie du consommateur et la macroéconomie à grande échelle.
Alors commençons par le début, par cette nostalgie. L'histoire de la décapotable, c'est assez paradoxal quand on y pense.
Ah oui, complètement.
Parce que les toutes premières voitures, bah, elles n'avaient pas de toit du tout.
Tout simplement parce qu'elles étaient les descendantes directes des calèches.
Exactement. Donc l'exposition aux éléments, ce n'était pas un choix de style, c'était juste la norme technique de l'époque.
Précisément. Le toit rigide, il est arrivé bien plus tard. D'abord, comme un équipement de grand luxe pour se protéger de la pluie, de la boue, du froid.
J'étais pour les privilégiés.
Voilà. Et ce n'est vraiment que dans les années 30 que l'absence de toit a été conceptualisée, que c'est devenu une démarche esthétique et sportive assumée.
Et la source donne un exemple assez précis là-dessus d'ailleurs.
Oui, l'un des exemples frappants évoqués, c'est la BMW 315-1 de 1934, un petit roadster qui a carrément forgé l'ADN sportif de toute la marque.
Et cette démarche, elle a fini par exploser pour atteindre un véritable âge d'or dans les années 90.
Ah, les années 90.
Tout le monde se souvient de la Mazda MX-5, non? Celle qui a réinventé le petit roadster léger.
Ou de la fameuse BMW Z3.
Propulsée par le succès de James Bond, exactement. Il s'en est vendu près de 300 000 exemplaires. Et puis, on avait aussi la reine de la polyvalence, la Golf Cabriolet.
Écoulée à 390 000 exemplaires, c'est massif.
C'est ça. À cette époque, de la Peugeot 36 à la Renault Mégane, chaque constructeur se devait d'avoir sa décapotable au catalogue. C'était obligatoire.
Et ce qui rendait cette période vraiment unique, c'est que la décapotable s'était démocratisée, en fait.
Elle n'était plus réservée à une élite.
Exactement. C'était devenu un symbole de réussite, mais un symbole accessible à la classe moyenne. Et puis, elle gardait un côté très pratique.
Oui, 4 places, un coffre suffisant pour les courses.
Tout à fait. Mais avec ce que l'article appelle, si justement, une part d'inutile. C'était vraiment une machine à générer des émotions, des souvenirs.
Et aujourd'hui, c'est fini. En préparant ce décryptage, j'avais une image en tête pour expliquer ce basculement à notre auditoire.
Je vous écoute.
Un smartphone de dernière génération sans aucune coque de protection.
Oh, j'aime beaucoup cette analogie.
L'objet est pur, l'esthétique est parfaite, on est d'accord, mais ça nous rend incroyablement vulnérables au moindre choc venant de l'extérieur. On a presque peur de l'utiliser.
C'est une excellente métaphore. Et en fait, cette vulnérabilité, elle est confirmée par la physique et par l'ingénierie automobile elle-même.
Comment ça?
Bah, on oublie souvent que pour un constructeur, retirer le toit d'une voiture, c'est un cauchemar absolu sur le plan technique.
Vraiment? Ce n'est pas juste enlever un bout de tôle.
Ah non, pas du tout. Le toit, ce n'est pas qu'un couvercle, c'est un élément porteur fondamental du châssis. Si vous coupez le toit d'une berline, la structure perd presque toute sa rigidité.
Et il se passe quoi du coup?
Elle a tendance à se plier au milieu. Sous son propre poids et la contrainte de la route, elle se plie comme une banane en fait.
L'effet banane, carrément.
C'est ça. Pour éviter ça, il faut rajouter des renforts énormes.
Mais attendez, j'ai une question de profane à ce sujet. Avec l'avènement massif des voitures électriques qu'on vit en ce moment,
oui.
Les batteries, elles sont placées dans le plancher, on est bien d'accord?
Tout à fait, dans de gros caissons.
Voilà. enfermés dans des caissons en aluminium ou en acier ultra rigide. Du coup, est-ce que cette rigidité par le bas ne devrait pas, en théorie, faciliter la création de décapotables ?
C'est une déduction super logique, mais c'est exactement l'inverse qui se produit sur les chaînes de production.
Ah bon ? Pourquoi ?
Parce que le problème majeur de la voiture électrique, ce n'est pas tant le manque de rigidité du plancher, c'est la masse globale. Les batteries, ça pèse des centaines de kilos.
Ah, c'est lourd.
Très lourd. Or, pour empêcher cette fameuse effet banane sur un cabriolet électrique, il faudrait quand même ajouter d'énormes renforts en acier forgé dans les bas de caisse, autour du pare-brise.
Et ça rajoute encore du poids.
Exactement. Si on additionne le poids des immenses batteries, plus le poids de ces renforts structurels indispensables, on obtient un véhicule effroyablement lourd.
Ce qui, j'imagine, détruit complètement l'autonomie.
Totalement. L'autonomie s'effondre à cause du poids, mais aussi à cause de l'aérodynamisme.
Ah oui, le vent.
Quand le toit est ouvert, le vent s'engouffre dans l'habitacle. C'est catastrophique pour la traînée. Sur un marché mondial où chaque kilomètre d'autonomie est un argument de survie commerciale, c'est impensable.
On ne va pas sacrifier 100 km d'autonomie pour bronzer.
Voilà. Financer des millions d'euros en recherche et développement pour un véhicule lourd, inefficace et qui ne s'adressera qu'à une poignée de romantiques, ce n'est plus du tout justifiable pour les conseils d'administration.
C'est la fin de l'insouciance financière. Et ce romanticisme, il se heurte aussi violemment à la réalité climatique.
C'est très vrai.
On pourrait imaginer qu'un pays comme le Maroc, avec son climat clément, ses milliers de kilomètres de côtes, ce soit un véritable paradis pour rouler les cheveux au vent. Mais la réalité décrite dans les sources, elle est nettement moins poétique.
Il faut faire l'expérience pratique, en fait. Rouler décapoté en plein été marocain entre midi et 16 heures, ce n'est pas un sentiment de liberté.
C'est un calvaire thermique.
Absolument. Le soleil est implacable, les sièges en cuir deviennent brûlants et la climatisation, elle s'échappe directement vers le ciel.
Elle sert à rien du tout.
Elle devient totalement inopérante. Et c'est sans parler de la réalité urbaine, hein.
Les embouteillages ?
Se retrouver coincé dans les bouchons d'une métropole comme Casablanca, sans toit, c'est respirer directement les gaz d'échappement des camions.
Et le bruit ?
Subir le bruit assourdissant des klaxons, avaler la poussière. C'est pas tenable.
L'illusion est parfaite sur une affiche publicitaire, mais au quotidien, c'est l'enfer. C'est donc ce qui explique la naissance de ce concept d'armure technologique ou de salon numérique dont parle le magazine ?
Exactement. Si l'extérieur est hostile, trop chaud, trop pollué, trop bruyant, la seule solution, c'est de s'enfermer dans une forteresse rassurante.
Le consommateur contemporain est devenu d'un pragmatisme redoutable, non ?
Ah, redoutable. Il exige de dominer la route, d'où le succès massif des SUV, dont la hauteur de caisse rassure immédiatement.
On voit tout de plus haut.
C'est ça. Il exige de pouvoir surmonter les nids de poules et les ralentisseurs sans frémir, et surtout, il exige un isolement acoustique et thermique total.
Un vrai cocon.
Un cocon souvent amplifié par des écrans massifs et une connectivité permanente. La poésie du vent dans les cheveux a vraiment été balayée par le besoin rationnel d'une bulle protectrice et polyvalente.
Et puisque ce besoin rationnel de s'isoler a totalement reconfiguré le marché, je pense qu'il est indispensable de se pencher sur la facture réelle, sur ce qui se vend aujourd'hui concrètement.
Les données sont très claires là-dessus.
L'analyse des immatriculations du mois de juin 2026 au Maroc, détaillée dans nos documents, c'est vraiment un cas d'étude fascinant sur les forces en présence.
Les chiffres sont en effet très parlants. Ils montrent un marché en pleine vitalité, hein, avec une croissance super solide, tant sur les véhicules de tourisme que sur les utilitaires.
Et qu'est-ce qui ressort en premier lieu de ces tableaux de vente ?
D'abord, c'est la formidable inertie des acteurs historiques. Les marques européennes, comme Dacia, Renault, Peugeot ou Volkswagen, conservent une base très solide.
Ils ne se laissent pas faire.
Non, parce qu'ils sont portés par un maillage territorial et une histoire locale que les nouveaux venus ne peuvent pas improviser du jour au lendemain.
Pourtant, la véritable onde de choc de cette source, la vraie surprise, c'est l'ascension fulgurante des constructeurs chinois.
C'est indéniable.
Des marques comme MG, Chery, Jetour, Dipal, Exed ou encore Lynk & Co. Elles s'emparent de parts de marché à une vitesse folle. Et là, j'aimerais qu'on aille un peu plus loin que le constat de base pour notre auditoire.
Allez-y.
Est-ce qu'il s'agit d'une simple guerre des prix basique, vous avez du low cost très agressif, ou bien est-ce qu'il y a un changement de paradigme beaucoup plus profond dans leur façon de vendre cette fameuse bulle protectrice ?
Alors, réduire ça à une simple guerre des prix, ce serait une grave erreur d'analyse. Le marché marocain, il est particulièrement instructif parce qu'il est arrivé à une très grande maturité.
Les gens ne veulent plus juste le moins cher possible.
Exactement. Les acheteurs, ils calculent la valeur réelle de chaque dirham investi. La stratégie des constructeurs chinois était de comprendre parfaitement ce nouveau standard du salon numérique.
C'est-à-dire ?
Historiquement, les constructeurs européens ont toujours bâti leur marge sur une politique d'options très complexe.
Ah, les fameux catalogues d'options sans fin !
Voilà. Le prix d'appel est hyper attractif sur l'affiche, mais si vous voulez la voiture agréable, il faut payer un supplément pour la caméra de recul, un supplément pour l'écran tactile grand format...
Les sièges chauffants, l'assistance à la conduite...
Tout. Un modèle presque à la carte.
Qui fait vite exploser la facture finale. On finit à 30% plus cher que le prix de base.
C'est ça. Eh bien, les constructeurs asiatiques ont pris le contre-pied total de ça en industrialisant la dotation de série.
Ils mettent tout de base.
Ils proposent des véhicules où tout l'arsenal technologique, y compris l'hybridation ou l'électrification d'ailleurs, est inclus par défaut. Ils ont en quelque sorte démocratisé le luxe technologique.
Le client n'a plus l'impression de devoir faire des compromis frustrants.
Exactement.
Ce qui met une pression colossale sur l'Europe.
Et d'ailleurs, c'est très amusant de voir comment les marques traditionnelles tentent de riposter.
Ils sont obligés d'innover autrement. Notre source évoque très précisément le cas de la nouvelle Opel Astra. Proposé à 285 000 dirhams sur le marché national. Et là, au lieu d'essayer de se battre uniquement sur la technologie brute ou sur un format SUV massif, Opel semble jouer une toute autre carte.
C'est une tentative de différenciation très assumée par l'esthétique et par le positionnement statutaire. Opel, qui appartient aujourd'hui au groupe Stellantis, mise sur le format de la berline compacte.
Avec un design purement européen, des lignes tendues.
Oui, c'est un pari audacieux. Ça s'adresse à une frange de consommateurs potentiellement fatigués par l'uniformité visuelle des SUV, tous un peu ronds, tous un peu pareils.
L'idée, c'est d'offrir une pointe de classicisme.
Une ligne racée et une image de marque germanique solide pour justifier son prix face à des concurrents asiatiques qui, eux, misent vraiment tout sur l'avant-garde numérique.
C'est vraiment le choc frontal entre l'héritage automobile d'un côté et la tablette roulante de l'autre. Mais bon, cette bataille des showrooms, elle cache une autre réalité.
Beaucoup moins visible.
Beaucoup moins visible et pourtant vitale. Ce qui se passe après l'achat. Parce que séduire un client avec des écrans haute définition, c'est une chose. Mais le garder, c'est un tout autre défi.
L'article met effectivement le doigt sur deux nerfs de la guerre qui sont souvent ignorés du grand public, le financement et le service après-vente.
Surtout avec l'inflation.
Bah oui, l'automobile, c'est un produit qui s'achète massivement à crédit. Dans un contexte de tension sur le pouvoir d'achat, les taux d'intérêt jouent un rôle d'arbitre incontournable.
Les campagnes de financement subventionnées, les offres à taux zéro.
Les offres de crédit adaptées, ce sont souvent l'argument final qui fait basculer la vente d'une marque à l'autre.
Et pour le service après-vente, j'imagine que pour toutes ces nouvelles marques qui débarquent avec des dizaines de nouveaux modèles chaque année, le vrai crash test, c'est la première panne, non ?
C'est le juge de paix. L'excellence du service dans les ateliers, la disponibilité immédiate des pièces de rechange et la fluidité des garanties, ce sont vraiment les seuls moyens de transformer un succès de curiosité en une fidélisation à long terme.
Si on achète un super SUV tech mais qu'il reste bloqué au garage...
Si un client doit attendre 2 mois pour faire venir un phare de remplacement de l'autre bout du monde, la réputation de la marque s'effondre. Et ça, quel que soit le niveau de technologie embarqué à bord.
Justement, ça m'amène à notre point suivant. Tout ce volume de vente... cette demande insatiable pour des SUV lourds, hyper équipés, tout en restant relativement abordables, cela pose un problème logistique monumental.
Un défi mondial, oui.
On ne peut plus se contenter de fabriquer ces immenses bulles technologiques en Asie ou en Europe et de les expédier par bateau à travers le monde sans pulvériser les marges financières et surtout le bilan carbone.
C'est impossible, oui.
Cela force donc les constructeurs à repenser totalement la géographie de leur production.
Et c'est une transition essentielle dans notre réflexion d'aujourd'hui. Le Maroc l'a parfaitement compris et a orchestré une mutation phénoménale de son industrie.
Il ne se contente plus d'être un marché.
Non, il n'est plus ce terminal portuaire où l'on décharge des voitures importées pour les vendre. Il est devenu le cœur même du réacteur industriel pour de nombreux constructeurs mondiaux.
Et l'exemple détaillé dans nos documents est assez saisissant. Le groupe Stellantis a officiellement lancé la production de sa plateforme nommée Smart Car dans son usine de Kenitra.
C'est un événement majeur, lancé sous l'œil de Riyad Mezour, le ministre de l'Industrie.
Exactement. On y assemble de nouveaux modèles très spécifiques, comme le Fiat Fastback, qui est conçu pour un public urbain à la recherche d'un SUV au look plutôt sportif.
Et le Fiat Grizzly aussi.
Le Grizzly, oui. Un véhicule très spacieux, pensé spécifiquement pour les familles de la région Afrique et Moyen-Orient.
Et le terme clé ici, le mot que vous avez utilisé, c'est « plateforme ».
Et il faut bien comprendre qu'une plateforme automobile, dans le jargon industriel, ce n'est pas juste un modèle de voiture.
C'est quoi alors?
C'est une architecture structurelle commune, un squelette de base, invisible pour le client, qui comprend le châssis, l'électronique de bord, les points d'ancrage des moteurs.
Et ça sert à quoi d'avoir ce squelette?
Sur un même squelette, on peut poser une carrosserie de petite berline citadine ou alors celle d'un grand SUV familial. Ça permet de mutualiser les coûts de façon drastique.
Ah, c'est le moment de reprendre mon analogie des Lego pour ceux qui nous écoutent.
Allez-y.
Ce que réalise l'industrie à Kenitra aujourd'hui, c'est un peu comme si, au lieu d'acheter des boîtes de Lego prêtes à l'emploi en Europe,
Oui.
et de juste les déballer pour suivre le plan de montage localement, l'usine marocaine concevait désormais les moules pour fabriquer les briques sur place.
C'est exactement l'idée.
C'est le Maroc qui décide de la forme du château, en somme.
Je vais même aller encore plus loin dans votre analogie. Non seulement Kenitra produit les briques, mais l'objectif, c'est que le plastique utilisé pour fabriquer ces briques provienne directement de fournisseurs installés au coin de la rue.
Ah oui, l'écosystème local.
C'est ce qui illustre parfaitement les objectifs de Samir Sherfan, le directeur des opérations de Stellantis pour la région. Il vise 75% d'intégration locale d'ici 2030.
75% d'intégration locale. Pour qu'on se rende bien compte, cela signifie que les trois quarts de la valeur financière et physique de la voiture, du câblage au siège, en passant par la tôle de la carrosserie, seront sourcés et fabriqués sur le sol marocain.
C'est vertigineux, oui. C'est la définition même de la souveraineté industrielle.
Complètement.
Accueillir une plateforme globale comme Smart Car, qui est capable de gérer des motorisations thermiques, hybrides et électriques pour tout un continent, c'est la validation suprême.
Ça prouve quoi concrètement aux yeux du monde?
Cela prouve que le système logistique marocain, la qualité de ses infrastructures, ses accords de libre-échange et surtout la qualification de ses ingénieurs et de ses ouvriers répondent aux standards d'excellence internationaux les plus stricts. On ne confie pas une plateforme mondiale à un pays si on n'a pas une confiance absolue.
Évidemment. Et structurer un écosystème d'une telle ampleur, ça réclame un carburant vital, l'argent.
Beaucoup d'argent.
Et pas qu'un peu. C'est ce qui explique le partenariat stratégique très intéressant mis en exergue par la source entre Attijari Wafa Bank et l'AMICA, qui est l'association représentant les industriels du secteur automobile.
Le financement, c'est vraiment le nerf de la guerre de l'intégration locale. Pour qu'un sous-traitant marocain puisse, du jour au lendemain, fournir des pièces à une méga-usine comme celle de Stellantis, il doit sans cesse investir.
Acheter de nouvelles machines?
Recruter, former et surtout s'adapter à de nouvelles normes environnementales drastiques. Le partenariat dont nous parlons, il vise à accompagner ses fournisseurs face à un défi colossal, la décarbonation.
C'est devenu une barrière à l'entrée?
Exactement. Aujourd'hui, si une pièce produite au Maroc a une empreinte carbone jugée trop élevée, elle sera fortement taxée, voire purement bloquée aux frontières européennes.
Donc, si on ne verdit pas l'usine, on ne peut plus exporter.
C'est ça. La finance doit donc massivement soutenir l'industrie locale pour verdir les processus et sécuriser les immenses capacités d'exportation du pays.
Tout cela forme une mécanique de précision assez impressionnante. En lisant ça, on a l'impression d'observer un gigantesque ballet où les banques, les ministères, les constructeurs mondiaux et les fournisseurs locaux tournent parfaitement en rythme.
C'est un engrenage très bien huilé aujourd'hui, oui.
Mais j'avoue que ce qui m'a le plus interpellé dans cette édition d'Imag Automoto, c'est un rappel à la réalité très poignant à la fin. Avant que cet écosystème ne produise des algorithmes, des plateformes robotisées et des accords de libre-échange, il a fallu que des êtres humains en posent les toutes premières fondations.
C'est très important de le rappeler. Il est toujours crucial de remettre l'humain au centre de l'histoire industrielle. La réussite éclatante des ventes et de la production de 2026, elle ne sort pas de nulle part.
Non, elle repose sur les épaules de pionniers. Le magazine consacre d'ailleurs un hommage particulièrement marquant à Feu Bouchaïb Najoula.
Un grand nom du secteur.
Il a dirigé le grand groupe Autohol pendant plus de deux décennies, de 1977 à l'an 2000. Quand on repense au contexte du marché automobile des années 70 et 80, c'était un autre univers.
Oh oui, rien à voir.
D'importer des véhicules ou tenter d'organiser un secteur devait être un véritable casse-tête logistique, marqué par une réglementation hyper complexe, des taxes fluctuantes et surtout l'absence totale de vision commune.
C'est pour cela que la stature de cet homme est fondamentale pour comprendre le présent. Karim Gelab, l'actuel président d'Autohol, souligne dans son hommage l'intégrité, le franc-parler et le vrai tempérament de bâtisseur de Bouchaïb Najoula.
Il voyait plus loin que sa propre entreprise.
Exactement. Il n'a pas seulement cherché à faire prospérer sa boîte au milieu du chaos, il a compris, bien avant d'autres, qu'aucun acteur isolé ne pourrait faire émerger un marché solide et crédible face au pouvoir public.
ce qui l'a poussé à cofonder et à devenir le tout premier président de l'AIVAM, l'Association des importateurs de véhicules au Maroc.
Il a littéralement forcé le secteur à s'asseoir autour de la même table pour parler d'une seule voix.
Et le lien de causalité avec notre sujet d'aujourd'hui, l'usine de Kenitra, Stellantis, tout ça, il est direct.
Totalement direct. Si en 2026, l'industrie automobile marocaine est capable de dialoguer intelligemment avec le gouvernement pour attirer des milliards d'investissements, si elle est capable de créer des ponts avec le secteur bancaire pour financer la décarbonation, c'est précisément parce que des structures solides comme l'AIVAM existent.
Les bases étaient là.
Les pionniers comme Bouchaïb, Nadjioula ont coulé le béton armé institutionnel sur lequel repose toute l'agilité actuelle du pays pour affronter des défis titanesques. Des défis comme l'invasion technologique asiatique ou la révolution électrique dont on a parlé.
C'est une perspective qui donne vraiment une toute autre dimension aux véhicules que l'on croise au quotidien. En fin de compte, ce décryptage nous a fait parcourir un chemin assez incroyable.
Une belle boucle, oui.
Nous avons débuté avec la disparition progressive d'un rêve romantique, celui du petit roadster léger fil en cheveux au vent, finalement condamné par son incompatibilité technique avec l'électrification et par notre besoin viscéral de sécurité.
Et nous avons ensuite observé comment ce besoin d'isolation, qui s'est traduit en véritable salon numérique hyper connecté, a redistribué toutes les cartes du marché.
Avec les Chinois en force.
Une redistribution où de nouveaux acteurs, en particulier chinois, ont bousculé l'ordre établi en démocratisant la technologie face à des Européens poussés à réinventer leur attractivité comme Opel.
Pour enfin découvrir l'envers du décor, la machinerie colossale qui rend tout cela possible et la façon dont le Maroc s'est hissé au rang de concepteur et de producteur majeur, porté par des héritages humains puissants et des ambitions d'intégration locale vertigineuses.
C'est un excellent résumé.
C'est ce qui conclut notre analyse d'aujourd'hui. L'essentiel à retenir pour quiconque prendra la route demain, c'est qu'un véhicule neuf, qu'il soit européen, chinois, électrique ou thermique, ce n'est plus seulement un assemblage de tôles et de plastique. C'est la matérialisation d'enjeux économiques planétaires et de décennies de structuration industrielle et humaine.
C'est toute la puissance de l'observation macroéconomique. Mais pour clore véritablement notre réflexion, j'aimerais qu'on revienne juste un petit instant à notre point de départ nostalgique.
Les décapotables.
Oui. À force d'isoler le conducteur, de multiplier les filtres, les aides à la conduite, l'insonorisation parfaite et les algorithmes prédictifs, l'humain n'a presque plus rien à faire à part subir un trajet stérile. Ne sommes-nous pas en train de semer les graines d'une future et radicale rébellion culturelle ?
C'est-à-dire, vous imaginez une forme de rejet total de cette perfection ?
C'est une hypothèse très sérieuse. Dans 10 ou 15 ans, lorsque le transport sera devenu un flux numérique totalement standardisé, lisse et sans aucun relief, il est fort probable que l'absence de technologie devienne le luxe ultime.
Ah oui, le besoin de retour aux sources.
Ressentir la rudesse d'un embrayage mécanique, écouter le bruit assourdissant d'un moteur thermique, affronter le vent froid dans une vieille décapotable inconfortable qui exige toute notre attention pour ne pas quitter la route. Il est fort à parier que des individus paieront des fortunes non plus pour être protégés, mais pour enfin le privilège de ressentir à nouveau la vulnérabilité du monde extérieur.
Payer une fortune pour acheter le droit d'être vulnérable face à la machine et aux éléments. C'est une réflexion finale extrêmement provocante et qui boucle ce décryptage de la plus belle des manières. Merci infiniment pour cet échange et il ne reste plus qu'à observer avec attention l'évolution de nos rues dans les années à venir.
Merci, à très bientôt.